Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode supplément de Tech Café qu'on enregistre le 5 mars 2025. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste. Et je suis ravi pour cet épisode, c'est un épisode au format donc interview, d'accueillir Florence Robin. Bonjour Florence.
Bonjour Guillaume.
Merci beaucoup de te rendre dispo pour cet échange. On va te découvrir plus en détail après cette petite introduction. Quand même, en quelques secondes, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es ?
Oui, alors moi c'est Florence. Donc j'ai monté une entreprise en 2016, donc Climatech, pour fabriquer des batteries au lithium pour décarboner l'aviation. Avant ça, j'avais fait des études techniques. Donc, j'ai commencé par un BTS conception de produits industriels et j'ai fini sur une école d'ingénieurs en génie mécanique et industrialisation. Et puis, entre-temps, j'ai travaillé un petit peu dans l'aéronautique chez Zodiac Aerospace ou Airbus à Toulouse. Et après ça, j'ai souhaité monter d'abord une première micro-entreprise pour fabriquer des feux de position, c'est comme des clignotants pour avions. Donc ça, c'était une petite micro-entreprise avant d'enchaîner sur la start-up.
On va pouvoir parler de tout ça parce que c'est hyper intéressant. Tu as mis plein de mots-clés qui sont sur lesquels on pourra rebondir. Mais d'ores et déjà, tu mets en opposition deux domaines que je ne pensais pas spontanément compatibles. Tu vois, le domaine de l'aviation qui me semble être une industrie énorme, qui est une industrie énorme, mais qui me semble complètement démesurée. Et en face, tu mets en avant des notions de micro-entreprise. Et voilà, on va reparler de tout ça. Juste avant qu'on échange plus en détail, je vous rappelle que Tech Café, c'est un podcast gratuit qui est disponible évidemment sur toutes les apps de podcast, comme Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify. Et si vous appréciez Tech Café, que l'info qu'on vous apporte avec les moments de divertissement également qu'on vous apporte, je vous invite à participer en tant qu'auditeur premium au financement sur patreon.com/techcafé. Patreon, c'est une plateforme de financement participatif qui vous permet de vous abonner mensuellement au podcast et de profiter en échange de contreparties comme par exemple un flux privé qui vous permet d'écouter les épisodes sans la pub ou même d'avoir des infos exclusives. Alors pour en profiter et contribuer à la pérennité du podcast, si vous pensez que ce contenu a une raison d'être et une importance pour vous dans votre quotidien, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, ouvrez dès maintenant votre navigateur sur patreon.com/techcafé. Sans autre forme de procès, on va donc pouvoir échanger avec toi, Florence. Je rappelle, comme je le fais à chaque fois que c'est le cas, que c'est un épisode qui n'est pas sponsorisé, donc avec une liberté de parole la plus totale entre nous, qui fait suite à une prise de contact qu'on a eue par intermédiaire, par mail. Et j'avais la conviction que ton expérience, ton activité et ton profil pouvaient intéresser les auditeurs et les auditrices de Tech Café. Justement, Florence, juste pour qu'on puisse continuer à mieux te connaître, tu es entrepreneur, tu l'as dit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours pro, même si tu l'as abordé avec quelques expériences, avant de devenir vraiment entrepreneur, qu'est-ce que tu as pu faire ?
Alors, déjà, j'avais un contexte personnel, c'est-à-dire que du côté de mon père, c'est tous des entrepreneurs. Mmh. Donc voilà, j'avais l'exemple à la maison. Et j'ai toujours eu cette envie d'entreprendre et de monter mon entreprise, mais je ne savais pas exactement quand ni comment. Il faut aussi une idée quand on veut se lancer. Et c'est vrai que moi, avec mon profil, je ne suis pas une chercheuse, donc je n'avais pas forcément d'idée, mais je savais que j'avais la volonté de me lancer et qu'avec une bonne idée, je pourrais gérer tous les autres aspects qu'il y a dans une entreprise. Mmh. Et donc, l'idée, je l'ai trouvée dans le garage de mon oncle. Donc, j'ai dit, du côté de mon père, c'est tous des entrepreneurs, mais du côté de ma mère, c'est des chercheurs et qui viennent tous du CEA. Donc, ça commence à mon grand-père, ensuite mes deux oncles. Et donc, voilà, le CEA, pour rappel, c'est un laboratoire français, donc le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables et alternatives. Et donc, il faut imaginer un petit peu les repas de famille, c'est-à-dire que à chaque repas de famille, on allait faire le tour traditionnel dans le garage des tontons pour voir les dernières innovations. Et ce jour-là, on me présente cette batterie, une batterie au lithium. Il faut savoir que donc, oui.
C'était quoi, excuse-moi Florence, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce labo, ce garage? Il y avait quoi dedans, dans les grandes lignes? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un aperçu de ce qu'on voyait dedans?
Alors déjà, la maison n'était jamais terminée. C'était un
Comme toute
laboratoire
maison.
géant. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait un oscilloscope qui était branché à la hotte de cuisine. Le four et le frigo étaient des objets technologiquement hautement avancés. La grande table en chêne, il y avait une machine à souder dessus. Il fallait toujours trouver un petit coin pour pouvoir y mettre son assiette pour manger. Et puis bien sûr, le garage, il y avait des tours, des fraiseuses et plein d'objets, des outils de production, etc. Donc, il faut savoir qu'ils ont transformé leur maison en maison autonome aussi, sur
Okay.
batterie. Ils ont également des pompes à chaleur un peu faites maison. Ils ont, ouais, bon, voilà, il y avait pas mal de choses. Et puis, dans ce garage, on y trouvait aussi, à un moment donné, un ULM. Parce que, Marc, qui est donc le nom de mon oncle, Marc Béranger, il a acheté des pièces détachées des États-Unis pour monter son avion dans son garage. Alors après,
Extraordinaire.
à partir du moment où il a fallu mettre les ailes, il a fallu qu'il le sorte du garage quand même, ça ne rentrait pas. Et donc, c'est là où il a cherché à y implanter une batterie au lithium. Et il n'a rien trouvé sur le marché de suffisamment fiable et sécurisé et léger, etc. Parce que c'était des batteries au plomb pour les petits avions. Et puis, dans l'aviation plus lourde, c'est des batteries au nickel-cadmium qu'ils utilisent. Et c'est des batteries très lourdes et polluantes, c'est-à-dire toxiques. Des batteries qui ont des matières CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Et donc, il a décidé de la fabriquer lui-même. Et donc, ça ressemble à rien au début. Hein. C'est-à-dire que c'était des accumulateurs dans une boîte à chaussures avec des fils électriques, un peu de scotch. C'était pas grand-chose au début. Hein. C'était une sorte de prototype très archaïque.
Il y avait évidemment pas d'imprimante 3D à l'époque qui pouvait permettre de rendre ça encore plus
voilà.
C'est élégant.
Et puis là, je me suis dit, mais ça, c'est une super idée. Il y a un marché. J'aimerais bien me lancer là-dessus. Donc, je l'ai convaincu de participer au Challenge First Step avec moi. Donc, ça, c'est un dispositif du CEA, donc un dispositif d'essaimage et de valorisation du CEA.
Mmh.
Donc, pendant un an, on était coaché par des coachs start-up du CEA et on pouvait développer la technologie, les premières briques hein, de ce projet.
Excellent. C'est rigolo, c'est vrai que c'est atypique hein, d'imaginer ça. Moi, tu vois, c'est très humble. Mon côté maker se résume à être en ce moment en train d'essayer de concevoir à l'appui de plans existants un distributeur de croquettes pour chats connectés. Et il y a plein de ressources, mais j'imagine effectivement que là, on est dans une autre dimension, notamment avec cette ULM. Je ne sais pas si tu as des photos à ce sujet que tu pourrais partager, mais ça doit être assez remarquable, effectivement.
Alors oui, on a fait des petites vidéos d'ailleurs sur les réseaux qu'on
okay.
trouve là, sur les Instagram, Facebook, etc.
Okay.
On a fait des petites vidéos qui retracent un peu toute l'histoire de l'Imatech année par année avec des photos de chaque étape.
Excellent. T'as conscience quand même que c'est quelque chose d'atypique. J'imagine que dans ton entourage, dans tes amis à l'époque, Tu passais pour quoi? La fille de Géo trouve tout un peu étrange ou est-ce que au contraire ça intéressait les copains et les copines? C'était quoi la perception qu'avait ton entourage?
Ah, d'ailleurs, Géo trouve tout, c'était le surnom de
Ça
mon oncle,
m'étonne
du coup, il l'appelle comme ça. Et puis moi-même, disons que j'ai eu un parcours scolaire un peu chaotique. D'ailleurs, lui aussi, en fait, on est deux personnes dyslexiques. Et donc, on n'était pas très doué à l'école. Enfin, le système scolaire ne nous convenait pas trop. Et quand on a compris que notre voie, c'était dans la technique,
ouais.
Ça a changé notre vie.
Ça a été détecté comment, la dyslexie, pour la petite anecdote? Toi, comment est-ce que ça a été diagnostiqué? Parce que, alors, je te dis ça, petit élément très personnel, mais j'ai mon fils de bientôt 9 ans qui a une dyslexie qui a été diagnostiquée, mais ça a mis un petit peu de temps. Et dans un premier temps, ça a été compliqué. On sentait bien qu'il y avait des blocages au niveau du français, de l'ordonnancement des lettres, etc. Mais ça a été détecté facilement, toi?
Disons que j'ai quand même une aide. On va dire que la chance que j'ai eue, c'est que ma mère était institutrice. Donc, elle m'a détectée très tôt. Elle a tout de suite vu qu'il y avait des difficultés scolaires. Elle connaissait pas trop la dyslexie à l'époque et elle a appris avec moi. Et après, elle a pu aider d'ailleurs plein d'autres enfants et élèves dyslexiques qu'elle a pu avoir dans ses classes parce qu'elle connaissait bien le sujet, du coup.
Oui, bien sûr.
Et ça m'a énormément aidée parce que du coup, elle s'est beaucoup renseignée. Elle allait parler aux professeurs pour leur expliquer que c'était pas un manque de volonté de ma part, que c'était pas parce que je ne travaillais pas, que j'avais des mauvaises notes, etc. Parce qu'elle se portait garante, parce qu'elle-même, des fois, m'aidait à réviser et elle voyait bien toutes les heures que je faisais et elle leur expliquait. Et c'est vrai que bah, des fois, ça leur faisait un peu mal au cœur à mes parents parce que du coup, ils me voyaient réviser tout le temps. Je travaillais quasiment 2 fois plus que mes autres camarades de promo. Pour des résultats 2 fois moins bons. Donc voilà, donc c'est vrai qu'elle m'a tout de suite diagnostiqué et on a mis en place parce que bon, à l'époque c'était pas encore très courant, maintenant ça va mieux, mais voilà, on avait mis en place des aménagements comme par exemple le tire-temps ou des auxiliaires, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé.
Ouais, bien sûr. Je crois qu'en fait, c'est fou, hein, parce que bon, c'était pas prévu qu'on rentre dans le détail de ce sujet-là dans l'interview, mais j'en profite quand même pour glisser le sujet. J'ai quand même le sentiment que c'est quelque chose qui est communément répandu, la dyslexie, et ça fait évidemment très longtemps. Est-ce qu'il y a des mouvements récents qui accentuent encore ces syndromes-là? Je ne sais pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est de plus en plus communément détecté, et tant mieux. Même si, honnêtement, aujourd'hui, quand on a un cas de dyslexie, quand les parents doivent essayer de trouver un orthophoniste et on leur dit, OK, on vous met sur la liste d'attente et d'ici 2 ans, vous aurez peut-être un rendez-vous. Et je n'exagère pas, hein, c'est vraiment des choses qu'on m'a restituées. Moi, ça m'interpelle évidemment beaucoup. Et je pense qu'il y a un trou dans la raquette là-dessus. Mais bon, terminons la parenthèse parce que malgré tout, effectivement, les profils de personnes qui ont des difficultés de type dyslexie avec le langage, l'écrit, la lecture, il y a quand même une sensibilité évidemment. C'est celle des sciences plus autour des mathématiques, de la mécanique. Et évidemment, de ton côté, bah, tu avais un terrain, je pense, tout tracé vu l'environnement familial dans lequel tu as évolué et que tu viens de nous décrire. Du coup, toi, tu t'es orienté assez naturellement dans le génie mécanique. D'ailleurs, avec du recul, je vois pas ce que tu aurais pu faire d'autre, honnêtement, comme orientation de ton côté.
Ah ouais, c'était la seule matière où j'avais des bonnes notes, c'était la technologie quand j'étais au collège. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire après un lycée technique, parce que c'était une matière qui évitait les problématiques liées à la dyslexie. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dyslexiques. Hein. En fait, en termes de stats et de pourcentage, il y en a à peu près 4%
Ouais, c'est énorme.
de la population. Et aujourd'hui, sur ces 4%, il y en a 20% en échec scolaire. Et ça, ce qui est intéressant de savoir, c'est que par exemple, en Chine, il n'y a pas de dyslexie, cette notion n'existe pas. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, ils n'ont pas de langage, enfin, comme en France, c'est-à-dire, ou comme en latin, ou enfin, ces bases latines-là. C'est-à-dire que eux, en fait, c'est des symboles, leur langage. Donc, comme c'est des symboles, ils n'ont pas la notion de la dyslexie, puisqu'il ne peut pas y avoir de difficultés liées à ça. Donc ça, c'était une étude que j'avais lue un jour et que j'avais trouvée super intéressante, parce que du coup, c'est en fonction de comment est fait le langage qu'on peut l'être ou enfin qu'on peut avoir cette difficulté ou pas. Et comme le langage chinois, c'est global, eh bien, il n'y a pas cette notion-là. Je trouvais ça intéressant.
Ouais, c'est sûr, ça laisse imaginer, et il y aurait peut-être des conclusions à en faire à ce sujet-là, mais ça laisse imaginer qu'effectivement l'alphabet latin est finalement pas et largement peut-être perfectible, en tout cas empreint de plus de défaillances que ne peuvent l'être d'autres alphabets. Et j'utilise peut-être pas les bonnes terminologies quand je parle d'alphabet pour le langage en chinois ou en japonais, en Asie, dans d'autres cultures. Écoute, merci en tout cas pour ce profil. Juste un mot quand même. Une jeune fille qui se plonge dans un environnement éducatif du génie mécanique. J'ai un a priori et tu vas me le confirmer ou me l'infirmer. Mais est-ce que tu avais beaucoup d'amis IES ou est-ce que c'était un milieu extrêmement masculin?
Ah, la technique, c'était extrêmement masculin. Mes amis, en fait, c'était à partir enfin, jusqu'au collège, j'avais des amis filles. Et puis, quand je suis arrivée, à l'âge de 16 ans dans cette classe de technique. Bah, on était deux filles. Voilà, bon, les stats aussi sont assez incroyables dans ce domaine-là, mais. Et puis alors là, bon, c'est vrai que j'ai trouvé ma voie, j'ai adoré ce que je faisais, mais il y avait quand même des choses assez incroyables qui se sont passées. C'est-à-dire que, par exemple, je faisais des TP sur des machines, outils, et il y avait certains professeurs qui ne souhaitaient pas que les deux seules filles de la classe touchent à ces machines. Du coup, nous, la seule chose qu'on avait le droit de faire, c'était les nettoyer. Nettoyer les copeaux.
Ah vache, quelle horreur.
Il avait
Ah
peur qu'on
ouais.
les casse, quoi. Oui,
Ah
il y avait
ouais.
encore des.
Ah oui,
Ouais, c'était
effectivement.
pas encore très ouvert. Et donc, voilà, j'ai vécu, oui, quelques situations un peu étranges comme celle-ci.
Ouais, je comprends. Bah, ce qui, du coup, amène à devoir trouver des ressources pour jouer probablement un petit peu des coudes pour ne pas être mis sur le côté, quoi. Enfin, et donc, bah, peut-être que ça t'a donné de l'énergie aussi pour entreprendre. Ça t'a donné encore un petit peu plus de regain d'énergie. En tout cas, c'est comme ça que je peux l'interpréter de mon côté. Et alors, justement, on parle d'entreprendre. Donc, cette bonne idée, tu nous l'as décrite un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler justement qu'est-ce que c'est les batteries dans l'aviation? Donc, tu nous as expliqué comment est-ce que tu as découvert quelque part ce sujet dans le garage, dans le labo familial, dans la maison labo familiale. Mais parle-nous un petit peu du fonctionnement des batteries. C'est quoi l'enjeu et quels sont les défis à relever?
Alors aujourd'hui, il y a, comme je le disais, hein, des batteries qui sont utilisées pour le démarrage des moteurs thermiques des avions. Donc tous les avions actuels, il y a à l'intérieur une batterie en 24 volts pour démarrer les moteurs thermiques. Et ces batteries, elles sont soit au plomb, soit au nickel-cadmium. Donc souvent pour la petite aviation, c'est du plomb, et l'aviation un peu plus lourde, c'est du nickel-cadmium. Donc c'est des technologies anciennes qui fonctionnent très bien hein, et qui sont fiables, etc. Mais qui sont très lourdes et toxiques. Et il y a même une demande de l'Europe, donc un texte hein, qui demande à ce que les États membres suppriment tout ce qui est plomb et cadmium. D'ailleurs, on a souvent entendu parler des normes ROFS, etc. Donc on essaye de supprimer le plomb et le cadmium puisque c'est toxique. Sauf que dans l'aéronautique, il y a une dérogation spéciale. Parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Donc, c'est les seuls aujourd'hui à avoir le droit d'utiliser du cadmium parce que bah, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'alternative suffisamment fiable et sécurisée. Et donc, nous, on arrive, on voit ça et on se dit, bah oui, c'est logique de passer au lithium. C'est comme la téléphonie est passée au lithium, les ordinateurs sont passés au lithium. L'automobile aujourd'hui passe au lithium, même si c'est l'automobile électrique et que c'est une autre application encore, hein. Ce n'est pas les mêmes types de batteries. Nous, on n'est pas sur l'électrique. Donc, c'est vraiment sur l'aviation actuelle des moteurs thermiques. C'est comme une voiture thermique. Aujourd'hui, bah, j'imagine que tu as une batterie dans ta voiture si elle est thermique et que des fois, tu dois faire les pinces quand tu n'as plus de batterie. Enfin, tu vois, c'est de celle-là dont
On
on
a
parle.
tous cette image, ouais.
Voilà. Et bien, bah, cette batterie-là, elle est lourde. Quand il faut la changer, ça pèse quand même. Hein. Et bah, du coup, c'est pareil pour l'aéronautique. Et aujourd'hui, le lithium, c'est 3 fois plus léger. Mais ça apporte aussi d'autres solutions, enfin d'autres, pardon, avantages liés au lithium. C'est-à-dire qu'elles sont, OK, 3 fois plus légères. Elles ont aussi besoin de 2 fois moins de maintenance. Elles ont une durée de vie 2,5 fois supérieure. Donc, on parle de durée de vie vivant. Donc, elles apportent quand même pas mal d'avantages. Et nous, à ça, on a innové par-dessus en ajoutant donc une carte électronique qui vient gérer le lithium, parce que le lithium, ça se gère, hein. C'est pas comme les vieilles technos, on n'avait pas besoin d'électronique, puisqu'il n'y avait pas de problématique d'emballement thermique ou ce genre de choses. Donc on vient gérer le lithium avec une carte électronique, et dans cette carte électronique, on y a intégré une brique technologique qui nous permet d'augmenter de 160% la densité de puissance des accumulateurs. Alors nous, on ne fabrique pas les accus, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas électrochimiste. Nous, on achète les accumulateurs et on vient faire l'électronique, la mécanique et le software qui vont autour pour créer le pack batterie. On est des pack makers.
C'est fou parce que quand tu décris cette idée-là, elle paraît. Alors, c'est comme toute bonne idée, hein, vraisemblablement, mais elle paraît terriblement, terriblement simple. Est-ce qu'il y a des défis à relever pour convaincre l'industrie? Et au passage, on parle des avions, est-ce que c'est juste l'aviation commerciale ou est-ce que ça peut concerner toute l'aviation en sens large? Je ne me rends pas du tout compte, est-ce que des avions militaires utilisent les mêmes technos que l'aviation commerciale? Tu vois, j'imagine que c'est assez différent, mais.
Alors nous, on couvre toute l'aviation, tout type d'aéronef, tout ce qui est thermique en tout cas, qui fonctionne avec des moteurs thermiques. Donc ça peut même aller jusqu'à des drones.
OK.
Hein. Et en fait, on peut même aller plus large, on peut voir plus large, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est un peu milieu sévère. C'est-à-dire que même le militaire ou le spatial ou d'autres domaines sévères, là, on va vraiment avoir une valeur ajoutée. Parce que nous, nos batteries, elles sont aéronautiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est quand même sur un très haut niveau de standard. C'est-à-dire que on va devoir passer à peu près 47 tests de haut niveau, là où l'automobile n'en passe que 9, par exemple. Donc là, il y a des très fortes barrières à l'entrée dans ce marché. C'est-à-dire que toute entreprise ne peut pas se dire demain, allez, je vais dans l'aéronautique. Nous, on a mis 8 ans à passer toutes les normes, les agréments, les certifications, etc. Aujourd'hui, on en a reçu 4, on en a réussi 4. Ça a mis du temps. Et on a fait multitude de tests et il a fallu certifier à la fois notre système de la management de la qualité, certifier notre design, certifier nos lignes de production et certifier la batterie elle-même, le produit. Donc ça, c'est un parcours du combattant. Il faut voir comme un labyrinthe de réglementation. Voilà, c'est un parcours. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a très peu d'acteurs dans ce domaine. Aujourd'hui, on est le premier acteur européen avoir réussi à certifier du lithium, une batterie au lithium standard pour l'aéronautique. On est les premiers. Et on est les deuxièmes dans le monde après les Américains.
OK.
Voilà. Et il n'y en a que deux.
Ouais.
Après, les autres, ils ont réussi à faire ce parcours-là dans les vieilles technos, pas le lithium. Et il n'y a que sept acteurs en tout. Et sur ces sept, il y en a cinq qui sont américains et deux français.
Eh ben, bravo, puisque tu fais donc partie des deux Français de ce que j'en comprends. Donc, je m'étais noté, tu vois, dans le petit conducteur, à quelle place pour la réglementation? Est-ce que c'est compliqué de proposer une nouvelle batterie pour des avions? Je crois que tu as de toi-même largement répondu. C'est quoi les éléments de test? Alors, on peut pas être exhaustif, puis j'imagine qu'on ne peut pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est quoi? C'est d'arriver à être capable de donner une traçabilité dans la réalisation de chacune des batteries, arriver à montrer qu'elle résiste à des conditions bien déterminées de pression, de résistance à l'air, résistance thermique aussi. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu des contraintes qui sont abordées par la réglementation et par les tests?
Alors, il y a toute une série de tests, mais ça, c'est pour tout type d'éléments qui va sur un avion, qui sont environnementaux. Donc, ça va être tout ce qui est vibration, choc, compatibilité électromagnétique, etc. Et puis, il y a après des tests qui sont vraiment plus spécifiques à la batterie. Et donc là, des fois, on pousse la batterie à créer des emballements thermiques. Et on le fait exprès, justement, pour voir comment elle réagit, si on arrive à maintenir les choses. Parce que le but, quand même, c'est la safety. Hein. Le but, c'est qu'il n'y ait aucun problème. On parle quand même d'un avion qui ne va pas pouvoir se garer au bord de la route s'il y a un problème. Donc,
Ouais.
donc le plus important, c'est la sécurité. Vraiment. Et que, dans le pire des cas, eh ben, que ça n'impacte pas la sécurité de l'appareil. C'est ça qu'on cherche à faire. Et bien sûr, c'est extrêmement difficile hein, de passer tout ça. Et heureusement que
Ouais,
ça rassure tout le monde. Quelque part.
c'est ce que
Sinon, on ne
j'allais
prendrait
dire.
plus l'avion. Hein.
C'est effectivement rassurant parce que quand on monte dans un avion, on préfère quand même savoir que tout a été soumis à des batteries de test et à des réglementations plutôt exigeantes. Tu parlais tout à l'heure, tu as dit un mot-clé qui est important sur lequel il faut peut-être revenir un petit peu. Tu parles de décarbonation de l'industrie de l'aviation. À ce stade, je retiens que les batteries que vous proposez sont des batteries qui n'exploitent pas les mêmes matériaux qui peuvent poser des problèmes, notamment cancérigènes dont tu as parlé, tu as évoqué tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous illustrer un petit peu le rôle de décarbonation que vous avez spécifiquement sur effectivement la réduction de l'émission carbone dans l'industrie de l'aviation?
Quand on parle de décarboner l'aviation, c'est vrai que tout le monde pense tout de suite avion électrique, zéro émission, etc. Mais aujourd'hui, les avions électriques, j'en vois pas. J'en vois pas beaucoup, ou peut-être un petit peu dans l'aviation très légère, mais je veux dire, dans l'aviation lourde, il n'y en a pas encore aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de marché. Donc, ce n'est pas le moment d'aller dans ce marché pour le moment. Mais nous, le pari qu'on a fait, c'est commençons par les batteries actuelles, donc les batteries basse tension. Et quand on saura maîtriser ça, et ben plus tard, quand tu auras d'autres besoins, on sera prêt. Et donc, c'est sûrement les mêmes étapes que dans l'automobile. L'aviation suit souvent l'automobile avec quelques années de retard, mais je veux dire, on commence par l'hybridation et après peut-être l'électrification. On verra ça pour plus tard. Mais dans un premier temps, on n'est que sur la première étape. La première étape, c'est de remplacer ces batteries. Quand on réduit le poids, sachant que c'est le plus important dans un avion, le poids. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est à la chasse au gramme. Et nous, on fait gagner 10 kilos. Exemple, sur un hélicoptère, on peut faire gagner 25 kilos à peu près. Sur un A320, on peut faire gagner jusqu'à 120 kilos. C'est incroyablement intéressant pour les compagnies aériennes, etc. Pourquoi? Bah parce qu'aujourd'hui, 1 kilo embarqué environ égal à 500 litres de kérosène par an. Et donc, cette économie de poids entraîne forcément une économie de kérosène qui elle-même entraîne une économie de CO2. Donc, on a fait des petits calculs pour savoir, voilà, au bout de combien de temps on gagne combien. Surtout qu'en ce moment, c'est un peu le leitmotiv européen, etc. C'est OK, faites des projets, mais voilà, ça économise combien de CO2? Aujourd'hui, c'est presque la nouvelle monnaie. On économise, on compte en CO2, quoi. C'est en fonction du nombre de CO2 qu'on économise, on aura la subvention en face, quoi. C'est un peu ça aujourd'hui. Mais voilà, donc on a fait le calcul et on a vu qu'en seulement 5 années de commercialisation, on pouvait économiser 2 millions de tonnes de CO2
Ouais, c'est
par
pas
le gain du
des
poids.
et c'est pas des rachats de crédit, c'est vraiment une économie enfin j'allais dire réelle. Alors effectivement, il y a toujours les voix qui se soulèvent relatives à l'aviation. On dirait ah, il faudrait carrément arrêter les avions et je peux comprendre ces discours qui sont extrêmement bah, oui, ils sont compréhensibles, mais ils sont quand même assez extrêmes. Et qui n'a pas pris l'avion depuis ces dernières années? Même pour le loisir, d'ailleurs, pourra rétorquer ce qu'il veut, mais c'est vrai que l'industrie de l'aviation, on a encore aujourd'hui du mal à s'en passer totalement. Et donc, effectivement, cette chasse au kilo que tu décris, elle doit être hyper scrutée et évidemment très, très surveillée, effectivement. On peut peut-être parler un petit peu de l'Imatec plus concrètement en tant qu'entreprise. On a compris, votre rôle, c'est donc de récupérer des accumulateurs, de vous fournir en accumulateurs, de les composer comme étant ces batteries nouvelle génération, en rajoutant l'électronique comme tu l'as décrit. Aujourd'hui, c'est combien d'usines? Demain, combien d'usines? Combien de personnes? Comment ça fonctionne aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est une seule usine, c'est la première d'ailleurs, et on avait été lauréat du plan France 2030 pour pouvoir créer cette première usine qui est dans la région grenobloise aujourd'hui, qui fait 1200 mètres carrés, et aujourd'hui c'est à peu près 20 personnes l'Imatec en tout, et donc répartis sur plusieurs régions, donc le siège à Toulouse, la vallée de l'aéronautique capitale européenne. Avec du coup la partie usine dans la région grenobloise, qui est la vallée de l'électronique et aussi maintenant la vallée des batteries. Et puis la cellule financière, une petite cellule financière à Paris également.
Tu sais, ce qui me paraît dingue, encore une fois, et je le disais un tout petit peu en intro, mais on est en train de parler d'industrie de l'aviation, potentiellement des clients pour vous partout dans le monde, avec des enjeux de réduction de la consommation de kérosène, comme tu nous l'as décrit, et tu me parles de juste 20 personnes. Est-ce que ça veut dire que vous avez une capacité avec une usine et 20 personnes à fournir énormément d'avions? Parce que finalement, ça ne nécessite pas beaucoup, beaucoup d'interventions humaines. Tu vois, j'arrive pas à me rendre compte quel est le travail impliqué par les personnes, et que finalement ces 20 personnes concentrent à elles seules un énorme volume de la production possible, ou est-ce que vous êtes dans une phase de création d'entreprise où vous avez besoin d'amortir les premiers investissements, de convaincre, de vous installer dans la production dans le domaine de l'aviation pour après croître et vous pourriez imaginer demain être beaucoup plus nombreux?
L'année dernière, on était 30, parce qu'on avait pas mal d'alternants, mais qu'on n'a pas
OK.
renouvelé, du coup. Et jusqu'à fin 2024, on était dans la phase du développement. Donc, on a fait tous les niveaux de maturité de la phase de développement, en commençant par la partie recherche, ensuite, après prototypage, etc., développement, certification. Et on a terminé toute cette phase avec le point final qui était l'obtention des diplômes de certification par les autorités européennes. On a fait une très belle cérémonie d'ailleurs en Allemagne à cette occasion.
Champagne.
Oui, ça c'est sûr. Et donc, pendant tout ce temps-là, on a aussi mis en place notre ligne de production, qu'on a certifiée également. Et aujourd'hui, tout est prêt. On a l'usine, on a la ligne de production, on a la batterie, on a les certifications, donc les autorisations qui vont bien. Et on est un peu dans cette phase entre deux, charnière. C'est-à-dire que là, on est dans la contractualisation du commerce, partie commerciale. Sauf que ça n'a pas encore commencé. Donc on est dans l'entre-deux. Tout est prêt, on est starting block là. Il manque plus qu'à appuyer sur le bouton on pour commencer à fabriquer les batteries et délivrer. Sauf que bon, il y a une phase d'attente puisque il y a cette phase de contractualisation, pardon, qui va nous donner le go. Donc on va commencer à livrer que à partir de 2026. Donc on a toute cette année là où on est dans la contractualisation.
Alors, ça permet de bien situer les choses. J'aimerais revenir aussi sur une des caractéristiques, un des mots-clés qui, moi, m'a interpellé. Et là aussi, je ne m'imaginais pas entendre ce mot-clé, ces mots-clés dans les sujets qu'on aborde. C'est ceux de financement participatif. Est-ce que tu peux nous détailler Alors, en quoi tu as fait appel à du financement participatif et pourquoi est-ce que tu as adopté ce type de financement pendant un temps?
Alors, on le fait depuis longtemps. C'est-à-dire que notre première plateforme de crowdfunding, donc financement participatif, c'était en 2019. On a bien le couplet à des levées de fonds. Et pourquoi? Ben parce que c'est intéressant de pouvoir créer une communauté. C'est-à-dire que justement, aujourd'hui, nous, on n'est pas une grande boîte, on n'est pas 1000 personnes, ce genre de choses. On est une petite équipe. Et donc, quelque part, c'est bien aussi d'avoir d'autres personnes, de se créer une communauté qui supporte le projet, qui eux-mêmes vont en parler à leurs amis, leur famille, etc. Et ça ouvre des portes et ça fait parler du projet. C'est une autre manière, quelque part, de se faire connaître aussi.
Oui, bien sûr, ouais. Il y a la vertu effectivement de la notoriété. Bon, j'en sais quelque chose par certains aspects avec Tech Café, mais oui, il y a cette vertu de la création d'une communauté et d'un embarquement d'un collectif et puis effectivement d'une vitrine, c'est sûr.
L'union fait la force quelque part. Et alors, je vais continuer un petit peu sur ce sujet parce que c'est intéressant. Aujourd'hui, dans le passé, on a fait du financement participatif en equity. Donc, les personnes achetaient des actions et devenaient actionnaires quelque part pour un certain temps. Après, ben, ils revendent des actions, ils font un multiple et voilà comment ça fonctionne. Là, on vient d'ouvrir sur la plateforme WeSeed un nouveau système. Alors, c'est pas nouveau dans le sens où ça existe, hein, mais c'est-à-dire que c'est pas de l'equity. Cette fois-ci, qu'on propose, c'est ce qu'on appelle des obligations. Donc, les obligations, qu'est-ce que c'est? C'est que les personnes, en fait, vont prêter de l'argent à l'entreprise et au bout de 18 mois, récupérer leur argent plus un rendement. Aujourd'hui, le rendement est à 11%. Donc, c'est mieux que ce qu'on peut trouver au PEA, sur un PEA ou sur une épargne ou je ne sais quoi, à la banque, c'est mieux. Livret A, enfin, je sais pas comment, tout ce qui existe là. Donc voilà, là on est sur des rendements à 11%. Et là, ça y est, c'est ouvert, hein, tout le monde peut y aller, etc. Et en fait, on a totalement innové notre manière de financer une usine. Parce que c'est vrai qu'on est très, très regardé par les autres startups industrielles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, je suis membre du CA de Start Industry, qui est une association qui est la voix unifiée des 2500 startups industrielles de France. Donc, c'est l'association qui est portée aussi par France Industrie, etc. Donc, Moi, je suis membre du board de ce truc-là. Et aujourd'hui, d'autres startups industrielles regardent ce que je fais avec attention parce que eux, ça leur paraît un peu fou de se dire qu'on finance une usine avec du financement du grand public,
Bien
finalement.
sûr, ouais.
Hein. Voilà. Sauf que bah, aujourd'hui, il y a un réel problème dans la partie investissement pour les startups industrielles. Il faut savoir qu'une startup normale, il y a deux vallées de la mort à passer. Ce qu'on appelle vallée de la mort, c'est le moment où ben, en fait, on ne trouve plus d'argent. Comme ça qu'on l'appelle. La première, c'est à 3 ans. À 3 ans, pourquoi? Ben, parce que voilà, au début, on a trouvé des fonds, tout le monde est super enthousiaste, puis au bout de 3 ans, ben, ça y est, le soufflet retombe, bon, ben, vous en êtes où? Ah ben, c'est pas fini, ouh là là, il n'y a plus de fonds. Personne ne fait confiance, etc. Première vallée de la mort. Deuxième vallée de la mort, c'est à 5 ans. Parce que ben, à ce moment-là, bon, ben, voilà. Ça correspond au moment où il faut aller sur le marché, sauf que bah du coup il n'y a plus suffisamment d'argent. Il y en a, ça fait 5 ans qu'ils attendent. Ils se disent bon bah quand est-ce que ça va fonctionner, etc. Donc voilà, c'est ce qu'on connaît ça. Et ben bah, dans une start-up industrielle, il y a trois vallées de la mort. La troisième, elle est liée au fait qu'il faut monter une usine et ça demande beaucoup d'argent. Et on a déjà passé les deux premières. Et puis la troisième, bah c'est bon, il n'y a plus personne, quoi. Ils se disent tous, oh là là, une usine, c'est beaucoup d'investissements, c'est pas encore dérisqué, etc., etc. Donc, les investisseurs, ils ont un peu peur. Et puis alors, si on rajoute le côté aéronautique à la chose, alors
Il y a les mots-clés
là,
de réglementation
ça devient
et
impossible.
ouais.
Voilà. Et du coup, eh bien, on a dû faire autrement. Moi, j'appelle ça tricoter. Tricoter, c'est ça, c'est-à-dire que on va chercher un peu d'argent du grand public, on arrive à les convaincre, etc. Parce qu'on fait beaucoup de com, on explique. Et puis j'ai été très étonnée de voir que beaucoup de gens finalement étaient très intéressés par le projet, alors qu'au début je me disais bah, les batteries lithium-aéro, mais ça va intéresser qui? Et ben en fait non, il y a plein de gens qui sont très intéressés, et j'étais très contente de ça. Et puis qui ont envie d'aider, je pense aussi, hein, voilà. Et du coup, bah, c'est un petit peu innovant cette manière de financer une usine. Parce que grâce à l'argent du grand public, on arrive à faire des effets de levier derrière. On arrive à lever de la dette en face en 1 pour 1. On arrive à lever de la subvention en 1 pour 1. Donc quand on lève 1 euro d'argent public, eh ben, ça se transforme en 3 euros à la fin. Quand on rajoute les effets de levier. Et donc voilà, donc on tricote depuis 8 ans de cette manière-là. Alors bien sûr, qui nous a quand même énormément aidés. Et je les en remercie beaucoup, hein. C'est la Commission européenne.
J'allais te
On
poser
avait
la
gagné un
question.
concours en 2020 où il y avait 12 millions à la clé quand même, hein, mais heureusement. Mais c'est vrai que bon bah pour le reste, on a fait comme ça.
C'est vrai que c'est aussi fou avec un regard très extérieur et j'ai pas mesure probablement de tous les enjeux, mais que des entités comme l'État en France ou l'Union européenne, alors peut-être qu'ils le font par certains aspects et qu'on le souligne pas ici ou qu'il faudrait rentrer dans les détails, mais ne soutiennent pas plus des projets de cet ordre pour lesquels il y a un calcul extrêmement concret et avéré, notamment en matière de décarbonation. Je trouverais ça effectivement génial, mais bon, c'est peut-être un regard très naïf de mon côté là-dessus. Écoute, merci beaucoup pour tout ce partage. Est-ce qu'il y a des aspects qu'on n'a pas abordés et que tu aimerais partager? Que ce soit sur ton expérience dans l'entrepreneuriat, dans l'industrie, dans la tech en général, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager ou un mot de la fin qu'on pourrait partager aux auditeurs et aux auditrices, Florence?
Oui, alors déjà, pour tous ceux qui ont envie de se lancer, eh bien, allez-y, faites-le, hein, voilà.
Mais au passage, non, je reviens juste sur un point, Florence, à ce sujet.
Oui.
Tu parlais tout à l'heure de la bonne idée. Et c'est vrai que c'est assez régulièrement que je peux échanger avec des personnes qui ont cette envie d'entreprendre comme toi, mais avant même d'avoir la bonne idée ou envie d'entreprendre, de porter des responsabilités, de créer son cadre aussi professionnel, mais sont désespérément à la recherche de cette fameuse bonne idée. Est-ce que j'ai l'impression que tu as presque un environnement cadeau là-dessus avec ton environnement familial et ton vécu, mais Est-ce que tu as ouais, d'autres pistes de conseils à partager pour trouver cette fameuse bonne idée dans l'entrepreneuriat?
Bah oui, je trouve que s'associer avec un chercheur du CEVA, il n'y a pas mieux.
Ouais,
Ils ont plein d'idées. Non, mais c'est
bien vu.
vrai, ils ont plein d'idées et ils n'ont pas forcément les équipes qui vont avec leurs idées. Et il y en a plein aujourd'hui qui cherchent des associés pour monter des projets basés sur leurs idées. Donc, toutes les personnes qui ont envie de
Excellent.
se monter, allez regarder de ce côté-là. C'est clair qu'ils vont trouver le bon associé pour créer
OK.
leur entreprise. S'ils n'ont pas l'idée eux-mêmes, je veux dire.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et c'est vrai que moi, je pense toujours qu'il y a des profils de chercheurs qui se marient bien avec des profils d'entrepreneurs. Et ce n'est pas les mêmes profils. Et il ne faut pas se dire que ce n'est pas parce que j'ai pas eu l'idée que je ne suis pas un entrepreneur, en fait. Ce n'est pas vrai du tout, ça. Et ce n'est pas parce qu'un chercheur a une bonne idée qu'il va y arriver. Hein. Il n'a pas forcément le bon profil non plus. En fait, c'est une équipe, c'est un travail d'équipe. Et c'est à plusieurs qu'on y arrive. Ce n'est pas tout seul. Et donc, pour revenir sur les conseils que je peux donner, ou le mot de la fin en tout cas, c'est donc si vous voulez vous lancer, bah, allez-y, faites-le. C'est pas parce qu'on vous dit que c'est pas fait pour vous qu'il faut s'arrêter à ces mots, hein, parce que moi, le nombre de fois où on m'a dit que c'était pas fait pour moi, et au final, aujourd'hui, je suis convaincue que c'est fait pour moi, donc je suis faite pour ça. Voilà, et derrière, bah, à tenter, on risque de réussir. Il faut savoir, donc ça c'est pour le côté un peu dyslexie, etc., que il faut savoir transformer nos différences en force, c'est important. Et puis après, tout ce qui peut être entrepreneuriat, etc., il faut se constituer un énorme réseau. Ça c'est très important. Aujourd'hui, on le sous-estime un peu, mais c'est très important le réseau pour réussir. Tout se fait souvent par le bouche à oreille, parce qu'on connaît un tel, parce que ci, parce que là. Et aujourd'hui, le monde professionnel tourne autour des liens que les gens créent les uns avec les autres, les institutions avec les autres. Et c'est pour ça que c'est très important de s'inscrire dans des clusters, par exemple, peuvent nous ouvrir beaucoup, beaucoup de portes. Ou après, ça peut être aussi les incubateurs, les accélérateurs. Et il y a des dates à ne pas louper. Il y a un ordre à ne pas louper. C'est-à-dire, quand on se lance, il faut connaître un minimum qu'est-ce qu'il faut faire en premier, qu'est-ce qu'il faut faire en deuxième, qu'est-ce qu'il faut faire en troisième. Parce qu'après, ce sera plus possible. Il y a des concours à faire. Et si on passe un certain nombre d'années, ou si on passe un certain nombre d'effectifs, ou un certain nombre de CA, ou ce genre de choses, eh bien, on n'y est plus éligible. Donc c'est pour ça qu'il faut bien connaître l'écosystème. Bien sûr, la BPI peut énormément aider également, parce qu'ils connaissent tout ça. C'est un énorme réseau, ils ont tous les bons conseils qui vont bien. Et donc, il faut bien connaître le bon ordre et le suivre. Et normalement, après, ça se passe bien. Puis après, il faut un peu d'audace et de courage. Hein. Et peut-être un peu de naïveté aussi, parce que il faut pas savoir exactement tout ce qui va nous arriver dessus pour forcer. Hein.
Faut pas trop se faire peur et il ne faut pas
Voilà.
s'exposer à la peur. Bon, c'est ce que je retiens.
C'est ça.
Florence Robin, merci beaucoup d'avoir passé ce moment en ma compagnie et en la compagnie des auditeurs et des auditrices de Tech Café. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce que tu invites les auditeurs qui voudraient en savoir plus sur toi à titre individuel ou sur tes activités, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver?
Aujourd'hui, on est sur tous les réseaux, donc on peut me trouver sur LinkedIn, me trouver sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok aussi, sur X, anciennement Twitter. Donc sur tous les réseaux, et puis bien sûr, on a également un site internet, et je vous invite quand même à aller faire un tour sur WeSeed, tous ceux qui ont envie de se lancer dans l'investissement.
Merci beaucoup Florence. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode supplément et cette interview. N'hésitez pas à réagir sur techcafé.fr et puis sur le serveur Discord de Tech Café dont le lien figure dans les notes de l'épisode. Comme je vous le disais en intro, si jamais vous êtes convaincu par le podcast, si jamais il a un rôle pour vous, je vous invite à aller sur patreon.com/techcafé et d'envisager de vous abonner pour un format premium d'écoute du podcast. Et puis, bien entendu aussi, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller déposer des petites étoiles et un commentaire idéalement positif sur les apps de podcast comme Apple Podcast, Podcast Addict et Spotify. Merci beaucoup pour votre fidélité. Ciao à toutes et à tous.